Mesdames, messieurs, la connaissance de l'histoire ne nous préserve pas du pire.
La résistance à Hitler, 1943-1945.
La résistance allemande a commencé le jour après que Hitler a pris le pouvoir, ça veut dire le 30 janvier 1933. Il n'y a pas une ville, il n'y a pas presque un village en Allemagne où il n'y avait pas des démocrates, socialistes, social-démocrates, communistes aussi, des chrétiens, des curés qui étaient dans les camps de concentration avant que la guerre a commencé.
La résistance, les résistances, aujourd'hui encore, chaque milieu allemand fixe sa loupe à sa façon, privilégiant qui la gauche, qui les chrétiens, qui les nationaux conservateurs. Les étudiants de la Rose Blanche à Munich en 1942 ou les 70 aristocrates mêlés à l'attentat du 20 juillet 1944 se retrouvent ainsi sous les feux de la rampe, mais ce n'est pas demain qu'on se souviendra des anarchistes. Sans doute est-ce le lot de toute résistance que d'être un objet d'identification problématique. La difficulté est d'autant plus grande qu'il est malaisé de borner les actes qui la constituent. Faut-il seulement regarder comme tels les gestes ouvertement politiques posés par des groupes organisés ? Après les premières années d'opposition massive du mouvement ouvrier, il ne pouvait qu'être limité, tant étaient grands les dangers encourus. La tendance aujourd'hui est donc à considérer davantage l'infra-politique. Tout rapport humain que des Allemands maintenaient à l'égard des persécutés pouvait être interprété comme un refus de l'ordre nazi. C'est Robert Antelme, le déporté, qui disait cela. Si on fait leur juste place à tous les refus symboliques, on voit qu'une coriace société civile a pu se maintenir au sein de la communauté du peuple nazi.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Johann Chapoutot, bonjour.
Bonjour.
Historien du nazisme, dernier grand livre sur l'homme nazi, la loi du sang. Gallimard, historien de l'Allemagne, hein, que sais-je, précieux sur l'histoire de l'Allemagne, où vous opérez enfin, Johann Chapoutot, votre conversion. Vous ne parlez plus seulement des nazis. Et nous allons vous aider dans cette conversion, puisque aujourd'hui, vous allez nous parler des résistants au nazisme. C'est pas facile de traiter de la résistance au nazisme dans toute son étendue, dans toute sa géographie, dans toute sa durée, surtout que l'historiographie sur la question est extrêmement abondante.
Elle est pléthorique, comme pour tout ce qui concerne le nazisme, et puis il est difficile de qualifier la résistance, justement. Les historiens allemands ont deux termes pour cela. Vous avez Widerstand, qui est la résistance ouverte, active, les actes commis, et vous avez un autre mot, Resistenz, qui appartient au vocabulaire de la physique à l'origine, c'est la résistance des matériaux, c'est le fait de ne pas plier, de ne pas ployer, et ça rejoint ce que vous disiez à l'instant sur l'infrapolitique précisément. Donc c'est cette espèce d'imperméabilité à des mots d'ordre du régime, à des injonctions à agir qui ne sont pas suivies, résistance passive, refus de saluer, refus de faire un geste, de dire un mot, ou alors le simple fait de raconter des blagues ou des bons mots qui sont consignés minutieusement par les RG de l'époque, c'est-à-dire le SD, le service de renseignement de la SS, et on a une quantité industrielle de ces plaisanteries.
Exemple.
Hitler visite un asile, tous les malades sont alignés, tendent le bras pour saluer, sauf un. Et Hitler va vers cette personne en lui disant « Et pourquoi toi tu ne salues pas ?» Et l'autre répond, la personne répond « Mein Führer, moi je suis l'infirmier, je ne suis pas fou. »
Mais le fait de devoir pratiquer l'humour, c'est aussi le signe que d'autres types de protestations plus organisées, plus massives, ne sont plus possibles, comme au tout début du régime en 33, 34, 35, où il y avait une opposition très importante du mouvement ouvrier. SPD, KPD.
Alors le mouvement ouvrier en fait a été désarticulé très tôt hein, au cours de l'année 1933, tout simplement parce que les grandes organisations ouvrières, SPD et KPD, Parti Socialiste, Parti Communiste, partaient du principe dialectique marxiste que la crise était arrivée à son acmé, à son summum, et que le régime nazi allait chuter de lui-même, et que dès lors ça allait être un échec. Ils ont été pris de court, ils ont été très surpris, les socialistes et les communistes, par cette implantation du régime nazi à laquelle ils ne croyaient pas. Ça paraissait invraisemblable qu'une bande de voyous comme ça s'installe en Allemagne.
Cependant, dans la mémoire, il y a eu protestations massives dont témoigne le nombre des déportés, et dans la mémoire de la RDA notamment. de la République démocratique allemande du côté de l'Est.
Alors vous faites bien de le signaler, la mémoire a été partagée comme le territoire allemand après 1945. On a beaucoup insisté en RDA sur la résistance qui a été très importante de fait hein, et sur les victimes du mouvement ouvrier, beaucoup plus en nombre beaucoup plus important que du mouvement chrétien. Hein. Il y a eu en tout 1000 chrétiens hors témoins de Jéhovah en camp de concentration. Il y en a eu quand même bien plus de membres issus du KPD ou du SPD. Du côté de l'Allemagne de l'Ouest, pendant la guerre froide, on a mis un bémol sur cette résistance ouvrière qui avait le défaut d'être souvent communiste pour exalter plutôt les nationaux conservateurs et les chrétiens.
On ne va pas tenter un panorama, on ne va pas se disputer sur les chiffres, on va prendre surtout des instantanés et parler des personnages ou des groupes qui émergent dans la mémoire récente. Notamment Victor Klemperer. Victor Klemperer, c'est un universitaire juif qui a été réduit à une demi-clandestinité. Il vit à demi-dissimulé à Dresde, où il tient son journal. Il a l'impression, début 1943, c'est notre date de départ choisie, d'être un peu comme Ulysse, à qui Polyphème, le cyclope, a dit « Je te mangerai le dernier ».
1943 a commencé par la capitulation de la 6e armée allemande à Stalingrad, suivie par la défaite de Rommel en Afrique. Défaite ou débâcle, c'était l'énigme permanente. Combien de temps encore ? Vocabulaire de l'héroïsme, lancé par Goebbels. Il faut être inébranlable du point de vue du caractère. Charakterlich, un nouvel adjectif créé par les nazis. Kämpferisch, combatif, et stur, obstiné, la plus grande contribution d'Hitler à la langue allemande. Mot nouveau apparu depuis la défaite de Stalingrad. Anfällig, fragile. Notre longue série de victoires a fini par nous gâcher le caractère et nous a rendus ici et là quelque peu fragiles. Malgré nos défaites, nous restons maîtres de la situation. Nos retraites en Russie se passent toujours planmäßig, comme prévu. Notre front n'est jamais percé, car il est élastique. Et les offensives ennemies ne progressent que schnackentempo, à une allure d'escargot.
Le documentaire de Stan Neumann, voici un extrait, est tiré du journal de Klemperer, qui est sous-tendu par un effort d'explication continu. Il essaye d'analyser la transformation de l'allemand en langue nazie. LTI, la langue du Troisième Empire.
Klemperer, c'est un romaniste, hein, comme on dit en Allemagne, c'est-à-dire un spécialiste de littérature française du XVIIIe siècle. C'est quelqu'un qui est très sensible à la langue et notamment à la création de cette nouvelle langue. Alors, je m'étais amusé, moi, dans mes derniers travaux, à faire un lexique de tous les mots, nouveaux que je voyais apparaître dans les sources nazies. J'en ai trouvé des centaines. Ce qui est relevé ici par Klemperer, c'est l'euphémisation hein, de la défaite. On parlerait aujourd'hui d'éléments de langage, si vous voulez. Quand on parle de réduction tendancielle de la hausse du chômage, on a des choses quand même qui sont assez proches de ce qui se passe aujourd'hui. La première résistance, au fond, et c'est ça que nous montre Klemperer, dans la solitude de plus en plus forte de son cabinet, où il est réduit à s'isoler dans sa chambre, où il écrit son journal, la première forme de résistance, c'est l'esprit critique et le travail sur la langue.
L'analyse de la perversion de la langue, on la trouve aussi chez un national conservateur qui s'appelle, si je prononce mal, Rek Malek Zeven, et dont le journal vient de paraître chez Belin. C'est fou d'ailleurs le nombre de journaux intimes qui sont parus en allemand, qui paraissent maintenant en français, dont Hélène Camarade a fait toute une analyse. Alors c'est une émigration de l'intérieur qui est ainsi signifiée par la tenue de journaux secrets.
Oui, c'est une forme d'espace privé qui échappe au contrôle du public, au contrôle de la police, au contrôle ou à l'invasion des mots d'ordre et de la propagande. Le journal intime, c'est le refuge ultime, précisément, d'un esprit pensant qui garde sa liberté et qui préserve son quant à soi.
Journal d'un désespéré, c'est le titre qui est donné au journal de Rek Malek Zeven, et il finira en effet déporté et assassiné. Alors, il y a le journal, on pourrait parler de la lettre, il y a le tract. Figure émergente de la mémoire, les étudiants de Munich, nous sommes un petit peu avant 1943, qui, travaillant dans la médecine, à l'université, avec un de leurs professeurs, rédige une série d'une demi-douzaine de tracts qu'il diffuse d'abord sous pli, puis plus largement. Ils seront arrêtés l'année qui nous intéresse, en février 43.
Vous étudiez depuis le printemps 1939 la médecine ?
Oui.
En tant qu'étudiant, vous avez le devoir d'effectuer un travail exemplaire pour la collectivité. Ce devoir et l'assistance que vous a gracieusement apporté le Reich ne vous ont pas empêché, pendant la première moitié de l'été 1942, de diffuser quatre tracts sous le nom de la Rose Blanche, qui, avec un cynisme odieux, annonçait la défaite de l'Allemagne, qui appelait à la résistance passive, au sabotage dans les secteurs de l'armement. Il ne manquait pas une seule occasion d'exhorter le peuple allemand à renoncer au système national socialiste, ainsi qu'à son gouvernement. Et vous avez ensuite entraîné votre sœur, lâchement, à suivre votre route. Scholl, reconnaissez-vous les faits ?
Oui.
Un des nombreux films consacrés à la rose blanche, il y en a eu presque pléthore. Si on était injustement cruel, on pourrait dire, Johann Chapoutot, que... Si la rose blanche a eu un tel succès posthume, c'est que c'est la résistance idéale pour tant de guerres froides en République fédérale allemande.
Oui, c'est très juste. Après 1945, ce sont les problématiques de guerre froide qui l'emportent en Allemagne de l'Ouest. Et c'est précisément sur cette résistance chrétienne, conservatrice, volontiers nationaliste. Alors bon, il y a la Rose Blanche, mais qui est peut-être la plus ouverte de toutes. Mais il y en a d'autres. Hein, le cercle de Kreisau, les gens autour de Karl Gerdeler, les gens qui ont fait l'attentat du 20 juillet 44, qui eux sont des nationaux conservateurs, parfois défendant un nationalisme très étroit. En tout cas, des valeurs conservatrice, patriarcale, socialement volontiers réactionnaire. Ça, c'est quelque chose qui passe beaucoup mieux dans l'Allemagne de Adenauer.
Mais dans l'Europe des années 2000, la Rose Blanche plaît aussi parce que c'est une résistance sans armes, pacifique.
Oui, alors, résistance sans armes, parce que c'est un groupe de jeunes étudiants qui professent le pacifisme par évangélisme, hein, par valeur chrétienne, tu ne tueras point, voilà, tu ne seras pas violent. Effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui tente dans les temps pénibles que nous vivons.
Sophie Scholl, c'est l'héroïne suprême du groupe de la Rose Blanche. Il faut qu'on dise un mot de la présence dans l'historiographie, dans les représentations des femmes, et notamment de celles qui se révoltent dans des manifestations. La plus étonnante, évidemment, c'est celle de 1943. Nous sommes toujours au mois de février de cette année-là. Les Juifs de Berlin, il y en a encore, 25 000 à peu près. Ils sont employés dans des usines d'armement, mm-hmm. C'est ça. Et s'ils sont préservés, c'est parce qu'ils ont des conjointes ou des membres de leur famille qui sont ariens. Cependant, 10 000 d'entre eux sont raflés dans leurs usines le 27 février. Et un des points de rassemblement, d'emprisonnement, c'est le 2-4 Rosenstrasse, devant qui s'organisent des manifestations de femmes.
Tante Frieda, ma petite tante qui n'était pas bien courageuse, tante Anna et toutes mes tantes qui n'avaient vraiment pas l'habitude de manifester se tenaient par la main.
Il y avait parfois tant de monde qu'ils ont dû détourner la circulation. La Rosenstrasse, une petite rue étroite où passait un autobus. On a mis en place une déviation. Par moments, il y avait sûrement un bon millier de personnes sur place. Tantôt les gens étaient calmes, tantôt ils criaient « Rendez-nous nos enfants, nos maris, etc. »
Je n'y serais jamais allé pour X ou Y. Je n'étais pas une héroïne et les autres femmes non plus. Ma mère pas plus que les autres. Nous voulions qu'on nous rende notre père. Comme dit, si les gens qui étaient enfermés là avaient été des inconnus pour moi, je n'y serais pas allé. J'aurais eu trop peur d'être déporté.
Un film documentaire sur Arte, il y a eu aussi un film de Margaret von Trotta, vous-même participez bientôt à un documentaire sur ces manifestations.
Oui, alors c'est un acte de courage incroyable. Hein. Et puis d'ailleurs, c'est pendant plusieurs jours que ces femmes-là, en plein mois de février à Berlin, il fait froid hein, en février à Berlin, sont restées dans la rue, dans cette Rosenstraße, cette rue des roses, pour réclamer la libération de leur mari ou de leur des membres de leur famille qui ont été libérés. Alors cela dit, il y a eu une querelle entre historiens pour savoir si la manifestation avait été effective ou pas. Il est apparu au regard des archives que il n'était pas question de pour le moment, à ce moment-là, de déporter les juifs mariés à des femmes dites ariennes, mais tout simplement de les recenser et de déporter les autres qui n'étaient pas en couple avec des ariens.
Il n'était pas question non plus de leur tirer dessus sur les manifestantes.
Les manifestantes, elles, pouvaient le redouter, ça c'est certain, et donc elles ont été très courageuses. Mais du point de vue de la police et du point de vue des services de sécurité, il était hors de question de faire ça, puisque contrairement à ce que l'on croit, le pouvoir nazi, surtout en 43, on est après Stalingrad, là, hein, est en négociation et en compromis tacite permanent avec son peuple. Il n'est pas question de faire tirer sur des femmes dans la rue. D'autres exemples existent. À l'automne 1943, dans la Ruhr, il y a des émeutes de la faim à cause des tickets de rationnement, des femmes manifestent, et la police n'intervient pas, on laisse les gens manifester, et on cède, les Gauleiter locaux donnent des rations supplémentaires.
Les tracts de la Rose Blanche sont réutilisés par les Alliés qui vont les larguer par milliers depuis leurs avions. Les Britanniques ont plus d'un tour dans leur sac. On se souvient des films de Leni Riefenstahl où la communauté du peuple nazi marche, marche, marche. Le pas de loi est transformé par les habiles monteurs des studios Universal. Nous sommes dans un film britannique de 1942 en Lambeth Walk, une danse anglo-saxonne à la mode.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Johan Chapoutot.
Oui, l'extrait qu'on vient d'entendre est un classique du genre. La marche au pas de loi paraît tellement mécanique, rigide et ridicule qu'elle a été parodiée. On a des exemples de films australiens où on voit Hitler marcher à reculons, en fait. On fait remonter la bobine sur fond d'aboiement de chiens, hein, pour le ridiculiser.
Les résistances à Hitler, ce sont des résistances qui relèvent de la dissidence silencieuse ou mesurée, mais il y a aussi les actes organisé. Je voudrais que vous nous restituiez les derniers maillons de la chaîne des attentats. Rek Menekseven, dont on vient de publier le journal, dit en 1932 « Comment je ne l'ai pas assassiné? Il était à côté de moi dans une brasserie et je pouvais le faire. Cet avorton fait d'immondices et de purins aurait disparu. » Il y aurait eu une quarantaine de tentatives d'attentats avant même ce qu'on va évoquer en 43-44.
Alors dans cette quarantaine de tentatives, il y a des attentats effectifs et il y a des projets. Hein. Par exemple, dès l'été 1938, au plus haut niveau du commandement de la Wehrmacht, autour de Ludwig Beck, qui est le chef d'état-major de l'armée de terre, il y a des projets d'élimination d'Hitler, dont l'expédition vers les Sudètes et vers la Tchécoslovaquie semble délirante en l'état. Hein. Beck, qui est un nationaliste, veut bien aller en Tchécoslovaquie, mais pas avant 1940. Et il y a des actes isolés, comme celui de cet ouvrier, Georg Elser, le 8 novembre 1939, dans la brasserie de Munich, où Hitler célèbre, comme chaque année, son putsch. Une bombe explose à 21h20. Malheureusement, Hitler a quitté la salle 10 minutes auparavant, parce qu'il doit rentrer à Berlin plus tôt que d'habitude. Et l'attentat échoue, enfin, l'attentat tue 6 personnes, mais pas la bonne. Et Elser fait preuve dans les dans ses interrogatoires par la Gestapo, alors que c'est un autodidacte, hein, d'une conscience politique et d'une remarquable argumentation politique, éthique et philosophique. C'est quelqu'un qui a vraiment pensé son geste, qui l'a préparé tout seul pour éliminer un tyran qui précipitait l'Allemagne dans la guerre et le désastre.
Celui que je voulais évoquer, parce que c'est aussi un grand nom qui a émergé dans la mémoire depuis 1952, la publication de ses lettres de captivité, c'est Dietrich Bonhoeffer, qui lui n'était pas un autodidacte, un pasteur luthérien de haute qualité qui appartenait à l'église confessante, c'est-à-dire une église minoritaire par rapport à l'église luthérienne d'État qui se soumettait plus volontiers à Hitler. Et voilà un chrétien qui passe, franchit le pas en 42-43. Ses fonctions dans le contre-espionnage à l'Abwehr lui permettent d'entrer dans un complot que voici décrit par Fabian von Schlabrendorf.
Nous avons tenté d'introduire deux bombes d'origine anglaise dans l'avion que prenait Hitler à Smolensk pour regagner son quartier général en Prusse orientale. L'attentat a échoué parce qu'en ce mois de mars 1943, régnait en Russie un froid entre 30 et 40 degrés. Mais notre arme, produite dans l'hémisphère occidental, n'a pu exploser en raison de la basse température.
On peut dire que, en décidant d'entrer dans le complot contre Hitler, Bonhoeffer a choisi de se salir les mains. Est-ce qu'il l'a fait sans débat?
Au contraire, après un très grand débat, d'autant plus difficile que sur ce point, il y avait très peu d'autres chrétiens en Allemagne qui le suivaient. Et donc, dans ce domaine, il a été assez solitaire. Ça ne veut pas dire qu'il était hésitant. Donc le Bonhoeffer que j'ai connu n'était pas un homme pessimiste. C'était un homme plus heureux que beaucoup d'autres Allemands. Parce qu'il avait trouvé un chemin. Parce qu'il savait ce qu'il devait faire. Et il était prêt à payer le prix.
Le deuxième témoin qui parle de cet attentat raté à Smolensk en 1943, c'est le pasteur Wisterstoff qui a été président du conseil œcuménique des églises. Johann Chapoutot.
Oui, Dietrich Bonhoeffer, c'est un personnage intéressant. C'est un théologien qui défend une théologie politique, c'est-à-dire une véritable philosophie politique de la théologie qui dit que lorsque l'État faillit, eh bien, l'Église doit se substituer de manière active et donc l'action directe peut être envisagée. Il se réclame d'ailleurs, non pas d'une tradition protestante, mais d'une tradition plutôt catholique, hein, du tyrannicide qui est théorisé par beaucoup de... Il est justifiable et légitime de tuer un tyran. Il est très lié à un pasteur, Martin Niemöller, qui est le fondateur de l'Église confessante que vous évoquiez, qui rassemble tout de même 7000 pasteurs. Et Martin Niemöller, c'est une personnalité intéressante parce que c'est un nationaliste antisémite. C'est un héros de la Grande Guerre, il a été commandant de sous-marins pendant la Grande Guerre, il a commandé des corps francs contre la République de Weimar à sa naissance, au début des années 20. Bref, c'est quelqu'un qui est très à droite, il vote nazi depuis 1924, mais lui, ce qu'il fait basculer en 1933, c'est la question de la race. Il estime que les juifs sont mauvais, certes, mais quand les juifs sont convertis, eh bien la grâce de la foi chrétienne les rachète. Donc on ne peut pas... il oppose la foi à la race et ne participe pas de ce racisme biologique, cet antisémitisme biologique des nazis. Donc il y a toujours un moment où certains esprits achoppent. Alors pour continuer sur les chrétiens, beaucoup de chrétiens approuvent la stérilisation des malades, mentaux ou physiques, en disant, argument théologique imparable, que l'homme ayant été fait à l'image de Dieu... Le malade n'est pas à l'image de Dieu, il est donc hors nature, hors loi naturelle et hors création. Et donc Et le moment où ça bloque, c'est le moment de l'assassinat avec l'opération T4 à partir d'octobre 1939. Donc il y a
Archevêque là s'est dressé, Monseigneur von Grafen, qui est bien heureux de l'Église catholique. Ce qui est étonnant, c'est la fortune posthume de toutes ces personnes qui sont revues, lues, considérées. Il y a un prolongement du monde après leur mort. Et idem, bien évidemment, pour les auteurs de l'attentat du 20 juillet qui suit de peu le débarquement que voici décrit à sa façon inimitable par Victor Klemperer.
6 juin 1944, en début de soirée, Eva est venue m'annoncer que l'invasion avait commencé cette nuit. Crise, euphémisme pour défaite, ne s'utilise jamais seul. La crise est toujours maîtrisée ou momentanée. Pour détourner l'attention de nos défaites, on l'appelle aussi crise de l'humanité occidentale. Communiqué de la Wehrmacht.
Aujourd'hui, on a attenté à la vie du Führer. Le Führer lui-même n'a été que légèrement blessé. Il ne souffre que de brûlures et de contusions sans gravité. Il s'est immédiatement...
Adressez les ordres suivants à tous les officiers de l'armée de réserve. Bulletin radio inexact. Le Führer est mort. Opération Valkyrie, toujours en vigueur.
Vive notre Führer, Adolf Hitler, à qui le Tout-Puissant a si manifestement accordé sa protection aujourd'hui.
70 aristocrates parmi la liste des gens conjurés ou proches des conjurés. Est-ce qu'on est seulement dans le milieu de la haute société ou est-ce que cette tentative d'assassinat raté de juillet 44 témoigne aussi d'un élargissement?
Non, là, ce sont
des groupes de résistance.
Là, ce sont des gens assez isolés. Alors, élargissement, oui, puisque ce sont des gens qui n'étaient pas des opposants jusqu'alors, contrairement à la gauche, qui l'a été tout de suite, hein, dès avant 1933, bien entendu. Eux, ce sont des gens qui ont profité du nazisme. Il y a un très beau livre sur le corps des officiers allemands qui s'appelle « Dienen und verdienen », c'est-à-dire « servir et être servi », gagner, gagner de l'argent. Il y a eu des très belles carrières qui se sont faites, mais ces gens-là se retournent, enfin une partie de ces gens-là se retournent à partir de 1943 face à la réalité et à la rationalité stratégique d'une guerre qui tourne au désavantage de l'Allemagne. Et donc, ces gens qui sont des nationaux conservateurs, qui défendent, alors, qui un nationalisme strict et étroit, qui une Europe chrétienne, mais en tout cas tous une société patriarcale, conservatrice, fondée sur les valeurs du protestantisme et ou du catholicisme, ces gens-là donc se réveillent un peu tardivement, après ce que Klemperer d'ailleurs appelle « die Invasion », il reprend le terme nazi, l'invasion, alors que le mot « Landung », débarquement, existe également en allemand, c'est assez intéressant. Et ces gens-là tentent donc l'acte qui a failli réussir. Leur réhabilitation a été très lente après 1944, tout simplement parce que ils apparaissent en 1944 et pendant quelques décennies après comme des traîtres. Attenter à la vie du chef de l'État au moment où les Russes enfoncent le groupe d'armée centre et roulent vers le Reich, c'est un acte de haute trahison et par ailleurs ils ont rompu leur serment.
Nous avons évoqué des figures de proue. J'aimerais que vous finissiez avec l'une d'entre elles. Hammerstein, qui fait l'objet d'un livre extraordinaire de l'écrivain Zenzberger, Hammerstein, ou l'intransigeance, d'ailleurs, nous avons affaire là à un ancien chef d'état-major qui, dès 1935, avait tourné le dos à Hitler. Et qui a une famille étonnante aussi.
Oui, famille étonnante parce que Hammerstein est le représentant de l'aristocratie militaire prussienne. C'est un noble, il a fait toute sa carrière dans l'armée, il est arrivé aux postes les plus élevés et il a des filles communistes. Des filles communistes dont il tolère qu'elles subtilisent dans son bureau quelques informations un peu précieuses et qu'elles les fassent passer à des mouvements de résistance souterraine, ce qu'on appelle la Untergrund Organisation, la résistance souterraine, l'Orchestre Rouge notamment, etc., dont on aurait pu parler. Un petit mot sur l'Orchestre Rouge, vous parliez de Track tout à l'heure. Orchestre Rouge, déjà, c'est un nom particulier.
À ne pas confondre avec les héros de Perrault.
D'une part, et puis d'autre part, ce n'est pas un groupe, c'est un terme inventé par la Gestapo pour désigner des groupes plus ou moins liés entre eux et qui ont, en 1942, saboté l'exposition intitulée « Le paradis soviétique contre l'URSS » en incendiant l'exposition et en distribuant des tracts intitulés « Le paradis nazi ». Et ce tract disait « La guerre, la famine, le mensonge, la Gestapo, encore combien de temps ?»
Merci à vous, Johann Chapoutot. Je rappelle votre histoire de l'Allemagne. Que sais-je, Presse universitaire de France. L'émission était réalisée par Jacques Sigal avec à la technique Ludovic Asselot, la préparation Linka Negulesco, Frédéric Martin et Franck Olivard. Mathieu Vidard, vous êtes déjà sur place, place du Palais Royal, bien évidemment, pour retrouver la mémoire toujours vivante de Bernard Maris.
Journée hommage, effectivement. Et puis une question pour la tête au carré, l'économie est-elle une science ?